Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
À toi le roi éternel, à toi le roi immortel. On y va.
Sainteté à ton nom. Il n'y en a point sur la terre ni dans l'univers qui soit comme toi, Seigneur. Et c'est devant ta majesté que nous nous prosternons. Sainteté à ton nom. Tu es saint. Tu ne peux voir le péché. Tu ne peux le supporter, Seigneur. Et dans ta miséricorde, tu nous as vus dans nos péchés, notre malheur, notre rébellion. Pas un d'entre nous ne marchait dans les voies de l'éternité, égaré, loin de toi. Mais parce que tu nous as aimés, tu as envoyé Jésus-Christ, le Seigneur, qui a pris notre place, qui a payé la dette. Et désormais, il y a espoir pour quiconque croit. Sainteté à ton nom. Tu es saint, Seigneur, tu es juste, tu es amour. Enseigne-nous encore ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de tes instructions pour marcher dans la lumière, pour répandre ta lumière, pour faire connaître ton grand nom. Tu viens bientôt. Prépare-nous, ô Dieu. Merci. Qui ira au ciel? Voilà la question. Qui ira au ciel? Qui pourra rentrer dans les parvis éternels, dans la gloire éternelle? Depuis plusieurs dimanches, nous parlons de cette fin des temps, des événements, de tous ces événements importants qui vont se passer. Et dimanche dernier, nous avons touché un sujet duquel on ne parle pas beaucoup, du reste personne n'a tapé des mains pendant ce service de dimanche dernier. Nous avons parlé de la punition éternelle. sujet duquel on n'aime pas beaucoup parler. On ne peut pas dire que ce soit un sujet populaire. Une punition éternelle, est-ce réaliste? Et pourtant, dans la parole de Dieu, il est clairement parlé du péché de l'humanité, de la conséquence du péché, de l'amour de Dieu qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Quiconque croit, quiconque l'accepte, quiconque passe par la croix, quiconque s'humilie, quiconque demande le pardon, peut être sauvé et rentrer dans le ciel, dans la gloire, dans l'éternité. Mais quiconque refuse de croire et de recevoir la grâce, quiconque, qui que ce soit, ne veut pas se soumettre à l'autorité divine, ne veut pas accepter la grâce qui lui est offerte gratuitement, refuse la main tendue de Dieu et préfère les vanités du monde qui passent. Celui-là ira ailleurs. Il ne peut aller, entre guillemets, au ciel, selon l'expression populaire. Non. Nous l'avons souligné dimanche dernier, il n'y a que deux places, deux principes. Il y a le bien et le mal, la vérité et le mensonge, ou le mensonge, je devrais dire. La souillure ou la sainteté, la vie éternelle ou la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu, la morale ou l'immoralité, la vérité ou le mensonge. Dans le fond, c'est très simple. Il n'y a que deux principes qu'on peut détailler comme je le fais, et même bien plus que cela, le bien ou le mal, ça se résume à cela. Dieu ou le diable, les anges ou les démons, le chemin large ou le chemin étroit, la porte étroite ou la porte large. Il en est beaucoup parlé dans la parole de Dieu. Il n'y a pas 36 chemins, 50 chemins, il ne peut y avoir de multiples religions qui toutes vont nous faire parvenir dans les parvis éternels. Non, aucune religion ne peut nous faire arriver et entrer dans les parvis éternels. Aucune, vous m'entendez? Aucune. C'est une personne qui nous fait rentrer dans le parvis éternel. Une personne. Jésus-Christ le Seigneur, qui a payé notre rançon sur la croix de Golgotha. Nous perdons tellement de temps à mille choses vaines. Et nous écoutons tant d'enseignements contradictoires qui jettent le trouble dans notre âme. Et pour finir, nous ne savons même plus que penser. Pourquoi ne pas baser notre foi sur la parole de Dieu? La révélation qui a franchi les âges, alors que même Satan voulait complètement la supprimer combien de fois à travers l'histoire. Dieu se révèle à travers sa parole. Il ne se révèle pas à travers une statue, une image quelconque. Quand je pense à toutes les aberrations dans lesquelles le soi-disant christianisme est tombé aujourd'hui, en faisant des choses contraires à la volonté de Dieu. Qui ira au ciel? Qui ira dans la gloire éternelle? Qui sera sauvé pour l'éternité, pour vivre avec Dieu pour toujours? L'homme n'est pas destiné à être détruit, anéanti, à passer sa vie et son éternité dans les ténèbres du dehors, expression qu'emploie la Bible. Non, Dieu a destiné à la vie éternelle chaque individu. Maintenant, tout ce qu'il reste, c'est la décision de l'individu. Dieu ne force personne. Il n'est pas un dictateur ou un despote, mais il est un Dieu d'amour. Nous lirons dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Les gens n'aiment pas quand on parle de la perdition éternelle. Les gens n'aiment pas lorsqu'on parle du feu qui ne s'éteint point, de ceux qui y seront jetés. Il y aura des grincements dedans et des pleurs. Non. Même les sages de ce monde et les philosophes de ce monde disent que cette punition est disproportionnée. On en a parlé dimanche dernier. Mais s'il est parlé du chemin étroit qui mène à la vie, il est parlé aussi du chemin large qui mène à la mort. Ces deux doctrines sont fondamentales dans la parole de Dieu. Et nous devons le savoir afin de faire notre choix. Nous avons un choix à faire, qui que nous soyons, riches ou pauvres, intelligents ou moins intelligents, éduqués ou moins éduqués, grands chefs des nations ou serviteurs dans la rue. Nous tous, nous avons une responsabilité et nous devons faire un choix. Il est écrit. Il n'y entrera rien de souillé. Où ça? Là, dans la gloire. Là, dans la cité que Dieu a préparée pour les siens. Il n'y entrera rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous en avons parlé de ce livre de vie de l'agneau. Est-ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Là, dans la maison de Dieu, là, dans les parvis éternels, là, au ciel, pour employer une expression populaire, là, au ciel, il n'y entrera rien de souillé, rien de sale. Souillé, ça veut dire sale, dégoûtant, répugnant. Il n'y entrera rien de souillé, rien de sale. De sale moralement, de sale physiquement, de sale intellectuellement. Il ne rentrera rien de sale. Ni personne qui s'adonne à l'abomination. L'abomination, abominable. La Bible traite d'abomination. Toutes les manipulations occultes que les hommes font. Toutes idolâtrie sous quelque forme que ce soit, dès l'instant ou même dans le christianisme, on fabrique des statues, des images pour se prosterner devant elles et s'attendre à ce que ces objets faits de main d'homme répondent à notre prière. Nous sommes idolâtres, donc abominables. La parole de Dieu nous interdit de faire aucune représentation quelconque. Quelconque. Et de ne pas se prosterner devant elle. Certains disent, oui, mais c'est simplement pour représenter. Quoi donc? On ne peut représenter les choses saintes. On ne peut représenter les choses sacrées. Toutes les représentations que feront les hommes n'arriveront jamais au niveau, à un niveau acceptable aux yeux de Dieu. L'homme est pécheur et tout ce qu'il fait de ses propres mains est marqué par le péché. Et l'homme ne peut représenter les choses saintes. Les choses saintes, Dieu les met à notre disposition. Comment ? À travers la repentance en Jésus-Christ. Et cette sainteté, il nous la donne lorsque nous venons à lui. Ce n'est pas que du jour au lendemain nous soyons parfaits, mais nous nous engageons sur le chemin de la sanctification. Que celui qui se sanctifie encore, saint aujourd'hui, encore plus saint demain, pour arriver à la perfection qui est la sainteté parfaite, dès l'instant où nous serons débarrassés de ce corps de chair qui veut pécher. Nous avons une lutte continuelle en nous-mêmes, une lutte avec notre chair et notre homme adamique. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons mourir à nous-mêmes. Comme Christ a été crucifié pour le péché, nous devons mourir au péché. Voilà! Ce n'est plus l'homme naturel qui prend les décisions, mais c'est l'homme spirituel, né de nouveau, qui prend toute l'autorité et toute la place sur cet homme naturel qui, lui, veut toujours pécher. Oui. Il n'y entrera rien de souillé, rien de sale, rien de corrompu, ni personne qui se livre à l'abomination, au fétichisme, sous quelque forme que ce soit, dans des sectes secrètes, dans des sociétés secrètes. Si c'est secret, Dieu n'y est pas, Satan y est. Tout ce que Dieu met à notre disposition et nous donne est lumière, transparent, vérité. Tout le monde peut le voir et le savoir. Dès l'instant où c'est secret, il y a ténèbres. Et les ténèbres ont leur origine en Satan. Toutes ces sociétés secrètes qui entrent dans notre pays et qui s'ajoutent à nos propres sociétés secrètes, tribales, nationales, tout cela est satanique et vient de Satan. Ces ténèbres, il n'y entrera rien de souillé, mais personne, vous m'entendez, personne, même pas un, qui s'adonne à l'abomination, à l'adoration des idoles, à l'adoration des fétiches. Personne. Et au mensonge. Et au mensonge, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'est pas dit qu'il s'adonne à l'adultère. Il n'est pas dit qu'il s'adonne à l'ivrognerie. Il n'est pas dit qu'il s'adonne au vol. Non. Ceci ne veut pas dire que ces choses que je viens de nommer sont bonnes. Tout cela, c'est de la saleté, de la saleté. Mais Dieu souligne particulièrement « et au mensonge ». Autrement dit, un menteur n'a pas de place là, dans la maison de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais menti de sa vie, qui lève la main, s'il vous plaît? Ah! Donc, personne ne peut rentrer. Personne ne peut rentrer. Et c'est ça que nous devons comprendre. Il n'y en a même pas un seul qui soit digne de rentrer dans les parvis éternels. Alors, qui ira au ciel? Personne. Et Dieu le savait. Dieu le savait. Le mensonge règne dans notre monde. Et l'enfant, depuis sa petite enfance, a en lui le mensonge. Un enfant de 5 ans, 6 ans, peut-être 7 ans. Je t'avais dit de ne pas prendre ça qui était sur la table. Non, non, je n'ai pas pris, ce n'est pas moi, menteur. Est-ce que le mensonge de cet enfant a moins de conséquences que le mensonge du grand boinade de l'homme d'affaires? Dites-moi un peu. Dieu n'a pas de degré dans le péché. C'est ça que nous devons savoir. Et le mensonge est ancré dans le cœur de l'homme. Quand je dis l'homme, je sais qu'on prend la femme, évidemment. Tout ça, ça forme un tout. Le mensonge. Combien de femmes mentent à leur mari? Combien de maris mentent à leur femme? Combien d'enfants mentent à leurs parents? Combien de responsables politiques mentent à la population? Combien de chargés de grandes responsabilités mentent et mentent et mentent encore? Et ensuite, ils vont à l'église et chantent des cantiques. Personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Donc, pas d'espoir pour personne. Pas d'espoir. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre. Qui se livre, vous voyez? C'est une volonté de la personne. Je me livre, c'est-à-dire je choisis de me livrer à l'abomination. Je choisis de mentir. Qui se livre, ce n'est pas qui a été livré par quelqu'un d'autre, mais qui lui-même se livre. C'est grave. De sa propre volonté, qui se livre à l'abomination, aux choses abominables. Il y a quelque temps de cela, vous connaissez notre fille Liliane, qui était ici pendant quelque temps et qui a prêché dans cette église, merci Seigneur. Elle prêchait quelque part. Et quelqu'un lui a dit, il est interdit à la femme de prêcher, c'est une abomination. Ah! Une abomination. Voilà la compréhension des hommes. Autrement dit, il y a des gens qui disent, plus de la moitié de l'église doit rien faire et rester assis. En général, il y a plus de femmes que d'hommes dans les églises, c'est pas vrai? Autrement dit, plus de la moitié doivent rester assis. Voilà, spectateurs. Alors que pour Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme. Chacun a sa responsabilité devant Dieu et doit accomplir ce que Dieu lui demande dans sa spécificité. Et gloire à Dieu pour toutes ces femmes à travers le monde qui ont fait un travail formidable, qui ont eu le courage, certaines fois bien plus que des hommes, pour aller dans des coins impossibles. Je pourrais vous donner tellement d'exemples qui me prouvent que Dieu utilise les femmes autant que les hommes et que Dieu a besoin de chacun, car Dieu ne s'achoppe pas à des considérations humaines. Il y a des fausses interprétations. On prend la Bible et on dit « la Bible dit que ». Et on prend ce qui nous plaît pour juger les autres. Dieu a besoin de chaque individu dans le corps de Christ. Chacun dans ce que Dieu lui demande de faire. Oh, nous sommes bien différents, hommes d'avec les femmes et les femmes d'avec les hommes. Et merci Seigneur pour ces différences dans le caractère, dans la personnalité, et Dieu veut nous utiliser dans nos spécificités réciproques, les uns des autres, les uns avec les autres. C'est pourquoi Dieu a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Un homme qui n'est pas marié, c'est un demi-homme. Avec une femme. toute sa vie. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Voilà. Le mensonge, Dieu ne le tolère pas à aucun niveau que ce soit. Le mensonge, sous toutes ses formes. Le mensonge, aujourd'hui, nous le voyons dans la politique, dans les affaires, dans le commerce, entre mari et femme, avec les enfants. Ceux-là ne sont pas admis dans la présence de Dieu. Vous m'entendez? Ils ne sont pas admis. Toi, chrétien, combien de fois as-tu menti cette semaine? Mais ceux-là seuls qui entreront dans la présence de Dieu, ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, il n'y en a pas d'autres que ceux-là. Ceux qui rentreront dans le livre de vie, qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau et qui rentreront dans les parvis éternels, ils ne seront plus souillés, ils seront lavés, purs. Ils ne se livreront plus à l'abomination. Et il n'y aura pas de mensonge en eux. Vous allez me dire, mais c'est un critère difficile, impossible. Comment pouvons-nous arriver à une telle perfection? Si nos noms sont inscrits dans le livre de vie, nous devons le savoir. Et nous pouvons le savoir. Ton nom est-il dans le livre de vie? Oh, j'espère. Si tu espères, c'est qu'il n'y est pas. Ton nom est-il dans le livre de vie? Je ne sais pas. Eh bien, c'est qu'il n'y est pas. Nous devons savoir maintenant, lorsque nous sommes dans ce corps ici-bas sur la terre, si nos noms sont dans le livre de vie. C'est impératif. Nous ne pouvons pas nous baser sur des peut-être, sur des espérances. Peut-être oui, peut-être non. Non, nous devons être sûrs si notre nom est dans le livre de vie. Ce n'est que par grâce et par la foi que nos noms peuvent figurer dans le livre de vie. Dieu a son livre. Il y a le livre de vie. Et il y a l'autre livre. L'autre vie, livre, c'est celui où les noms et toutes les abominations, les péchés de chaque individu sont inscrits. Là, il est parlé de livre. C'est un langage que nous comprenons. Mais déjà aujourd'hui, on a passé les stades de livre, c'est pas vrai? On a les ordinateurs. Les ordinateurs. Dieu a ses ordinateurs mille fois. Oh, que dis-je, supérieur à tous nos ordinateurs. Et croyez-moi qu'il connaît le nom de chacun et que ces listes sont tenues à jour avec tous les péchés que nous avons commis. Si nous avons oublié, peut-être, Dieu n'a pas oublié, c'est écrit. Il n'y a qu'une chose qui peut effacer nos péchés et nos noms dans ce livre du jugement, c'est le sang de Christ. Et le sang de Christ va écrire le nom nouveau que nous recevrons alors dans le livre de vie. Sachons bien que si notre nom est dans le livre de vie, il s'est passé tout un processus pour que nous soyons des hommes changés. Nous étions menteurs, abominables. Nous étions dans la saleté et la débauche. Mais Dieu, dans sa miséricorde, à cause de Jésus, nous a fait comprendre l'état dans lequel dans lequel nous étions et nous a amenés à la repentance. Oui, nous pouvons savoir à l'avance où nous allons. Oui, nous pouvons savoir à l'avance si notre nom est dans le livre de vie. Ce n'est pas un peut-être. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un peut-être pour une telle chose si capitale pour notre vie à nous. Nous devons savoir, une fois que la vie physique de ce corps de chair s'en ira, et pour chacun de nous, ce moment arrive à un moment donné ou à un autre, nous devons savoir où nous allons. Nous ne sommes pas maîtres de nos jours et chacun d'entre nous, nous sommes véritablement en danger. Savons-nous ce qui va se passer en sortant de cette salle? Pouvons-nous contrôler ce qui va se passer? Nous prenons l'avion et nous avons foi que le pilote et l'entretien de l'avion s'est fait comme il faut, que le pilote est capable de le piloter. D'accord. Mais à Goma, il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu cet homme dans mon bureau, il avait encore un bandage à la tête. Il avait été brûlé aux mains et sa voix était toute déformée à cause de l'air chaud qu'il avait respiré. Mais il a gardé la vie. Un homme très intelligent, plein de diplômes, sage selon le monde, mais fou selon Dieu. Parce que jusqu'à maintenant, il n'avait pas reconnu Jésus-Christ comme son sauveur. Et là, dans le bureau, il a parlé. Il a parlé de ses doutes, les doutes du raisonneur, du super intelligent, qui veut tout passer par l'intelligence et la sagesse humaine. Je lui ai dit, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dieu vous a prêté vie, il vous a protégé. D'autres sont morts. Profitez de l'occasion de ce que vous êtes en vie aujourd'hui, parce qu'après la mort, c'est trop tard. Et c'est ça que nous devons savoir, mes frères. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Peut-être en descendant là, sur Delvaux, tout d'un coup, un taxi fou, une voiture folle, un drogué, que sais-je, vous rentre dedans. Vous voilà en train de saigner à mort. Avant d'arriver à l'hôpital, vous êtes déjà parti. Où allez-vous passer l'éternité? Au ciel? Nous avons l'habitude de dire dans nos cultures occidentales, quand quelqu'un est mort, on dit il est parti au ciel. Alors on dit aux petits-enfants, voilà, tu vois, grand-papa est parti au ciel, grand-maman est partie au ciel, le grand frère est parti au ciel. Mais ça, c'est un langage gratuit. Était-il prêt pour partir au ciel? On ne va pas au ciel automatiquement. Il n'y a pas d'automatisme dans la vie spirituelle avec Dieu. Il y a un choix défini à faire pendant le temps que nous sommes ici-bas sur la terre. Parce que, normalement parlant, nous ne sommes pas destinés au ciel. Nous sommes destinés au jugement éternel. Il n'y a même pas un juste, dit la parole de Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Rien de soulier, aucun menteur ne rentrera. Personne qui se livre à l'abomination n'y rentrera. Et nous sommes tous nés dans le péché. L'enfant, tout petit déjà, commence à mentir. Mais les gens vont dire, oui, mais enfin quand même, le mensonge d'un enfant ou le mensonge d'un grand, c'est différent. Oh non, il n'y a pas de petit péché et de grand péché. Dieu ne fait pas de calcul de ce genre. Dieu a renfermé tout dans un dénominateur commun qui est le péché. Vous avez été éduqué normalement. On vous a enseigné les principes de la morale. D'accord. Vous n'avez pas beaucoup péché. Tandis qu'un autre est un être abominable. Il a tué, il a volé, il a empoisonné. Il a fait toutes sortes de manipulations occultes. Il a beaucoup péché, mais Dieu ne fait pas de différence. Un seul péché nous ferme les portes de l'éternité. Avons-nous pensé à faire le compte de nos péchés? Et même si nous faisions le compte, nous n'arriverions pas à nommer tous ces péchés que nous avons oubliés et faits dans le passé. Il faut une intervention de Dieu. Privé de la gloire, privé de la vie, le nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau. Et si le nom est dans le livre de l'agneau, c'est par grâce et par la foi qu'il y figure désormais. Et nous pouvons connaître à l'avance. Une fois que la vie physique est partie où nous allons, nous pouvons le connaître. Le connaître parce que réconcilié avec Dieu. Comment? Par Jésus-Christ le Seigneur. L'apôtre Jean, apôtre du Seigneur, celui qui, à travers l'inspiration du Saint-Esprit, et qui a parlé concernant les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il nous dit ceci dans 1 Jean 5, 13. 1 Jean 5, 13. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous voyez? Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Nous pouvons le savoir. Nous devons le savoir. Quand nous le savons, nous marchons avec certitude. Nous marchons afin de telle façon que nous ne perdions pas ce que Dieu nous a donné gratuitement. Voilà. Je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà, vous avez la vie éternelle. Pourquoi? Parce que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Croire en Jésus, croire en Dieu. Oh, il y a beaucoup de gens dans notre monde, dit chrétien, qui croient en Dieu. Vous lui demandez, vous croyez en Dieu? Mais bien sûr que je crois en Dieu. Il est là en train de se fumer son gros cigare, de boire sa bière. Il est là en train de courtiser une femme qui n'est pas la sienne. Il va vous dire, bien sûr que je crois en Dieu. Ah oui, mais croire c'est quoi? Croire c'est faire aussi. Croire, c'est faire, c'est se soumettre à l'autorité de celui duquel nous croyons. Mais si je dis que je crois en Dieu, que je fais n'importe quoi, qu'il réprouve, je suis au même niveau que Satan qui croit en Dieu et qui tremble. Voilà. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, parce que vous croyez, vous faites ce qu'il vous dit. Vous marchez dans la vérité, vous marchez dans la lumière, vous vous soumettez à son autorité. Alors, vous avez la vie éternelle, parce qu'il est mort pour vous. Nous pouvons savoir avec certitude que nous irons au ciel et que nous avons la vie éternelle quand nous quitterons ce corps. À quel moment? Nous ne sommes pas maîtres de ce moment. Beaucoup de jeunes meurent, de moins jeunes meurent. Quand on voit les hécatombes qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui, avec la haine du prochain, de ces hommes qui se suicident pour tuer le plus grand nombre possible de personnes, attention, il y a une rémunération pour chacun. Nous pouvons savoir avec certitude si nous sommes sauvés, oui ou non. Si nous avons la vie éternelle, oui ou non. Si nous verrons la gloire et la vie éternelle, oui ou non, nous pouvons le savoir et c'est mieux de le savoir maintenant, une fois que la mort à frapper, c'est trop tard. Êtes-vous en règle avec Dieu? Nous devons savoir le standard exigé par Dieu, le Dieu saint, pour entrer dans le royaume et vivre avec lui pour l'éternité, ce standard est très, très élevé. Nos péchés nous empêchent d'y entrer dans ce royaume des cieux. Aucun homme n'est arrivé et ne pourra jamais arriver à la hauteur du standard exigé par Dieu. Aucun homme ne peut y arriver par ses propres forces. Vous pouvez essayer, mais vous n'arriverez pas, car tout en voulant essayer, vous allez encore pécher. Et un seul péché est suffisant pour vous condamner éternellement. Dieu est saint. Nous devons réaliser que la sainteté de Dieu ne peut supporter aucun péché, serait-ce un seul que vous avez commis. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous avons besoin de nous humilier à ses pieds et dire, Seigneur, pardonne-moi, donne-moi la vie. Seigneur, je crois en Jésus qui est venu pour payer ma dette. Il a pris ma place. Il est mon substitut. Je veux être au bénéfice du sacrifice de Jésus. Je crois en lui. Je regrette, Seigneur. Et je m'humilie devant toi pour mon péché. Il n'y a que ce chemin, car nous ne pouvons y arriver nous-mêmes à ce standard exigé par Dieu, par nos propres forces. C'est le péché qui a fait que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, du paradis terrestre, où étaient Adam et Ève. Adam et Ève n'avaient pas beaucoup péché. C'est ce qu'on peut dire. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Et puis ils en ont mangé. Désobéissance, orgueil, indépendance vis-à-vis de Dieu, rejet de sa volonté. Oh, si on veut faire la liste quand même, il n'y a pas simplement de manquement là. Hein? Mais, comparer le péché d'Adam et Ève à notre péché aujourd'hui dans le monde. Quelle montagne! Quelle montagne! Pensez à cette vie déréglée que vous avez connue pendant toute votre jeunesse. Ces mensonges que vous avez proférés, ces vols, cette violence, cette haine, et j'en passe. Bien plus qu'Adam et Ève. Si Dieu a jugé Adam et Ève et les a chassés du jardin, du paradis terrestre, croyez-vous qu'il y aura une place dans les parvis éternels pour vous, si vous ne passez pas par la croix? Qui ira au ciel? Le ciel, c'est le langage populaire. Le ciel, quand on regarde les nuages et qu'on voit cette étendue bleue autour de nous, on appelle ça le ciel. Mais il y a un ciel au-delà de celui qu'on voit. Paul était monté jusqu'au troisième ciel dans la présence de Dieu. Quelque part, là-haut, nous ne savons comment le définir. Nous sommes des êtres finis, temporaires, passagers, vaniteux. Mais Dieu nous offre la vie éternelle. C'est à nous de choisir. Aller au ciel, oui, mais il y a des exigences. Qui ira au ciel? Ceux qui se soumettent aux exigences de Dieu. Le péché a fait que l'homme a été chassé de ce paradis. À cause du péché, le sol fut maudit et produisit des ronces et des épines. À cause du péché, Dieu a dit à la femme, tu enfanteras dans la souffrance et dans la douleur. Et en effet, chaque accouchement est, pour ainsi dire, un risque pour la femme. Avec la science moderne, on cherche à limiter ces morts, ces hémorragies qui amènent la mort. Certaines ont des accouchements difficiles, très difficiles. Elles peinent, elles souffrent. Le sang coule. D'autres qui accouchent loin d'un centre hospitalier quelconque, elles saignent à mort. C'est vrai, la malédiction a touché l'homme, a touché la femme. Tu travailleras la sueur de ton front. L'homme a toujours essayé d'échapper à la malédiction. Il veut avoir le confort. Il invente toutes sortes de choses pour le confort. Quelques-uns jouissent de ce confort, mais pour que quelques-uns jouissent du confort, combien d'autres sont en train de travailler et de transpirer pour que les autres puissent jouir du confort, avec des salaires de misère, c'est ce que nous voyons ici au Congo, avec des salaires de misère pour que d'autres puissent, n'est-ce pas, jouir d'un confort. Non, Dieu n'a pas voulu ce déséquilibre dans la société. Dieu n'a pas voulu ce déséquilibre. Pourquoi l'autre doit jouir d'une vie facile, avec tout le confort et les facilités de la vie, et que ceux qui travaillent pour lui doivent travailler comme des esclaves avec un salaire de misère? Déséquilibre. La malédiction n'est pas ôtée sur ce monde, malheureusement. Et alors que le temps passe, les conséquences sont là, tragiques, dans une société déséquilibrée, mécontente. On manifeste tout le temps, on descend dans les rues, on fait des grèves, et que sais-je encore, pour arriver à quoi? À plus de misère encore. Il y a une solution pourtant. Cette solution, c'est Jésus. Mais qui l'accepte? Frères, sœurs, si vous gémissez aujourd'hui et que vous avez cru en Jésus-Christ, réjouissez-vous, car d'abord vous êtes délivrés de la malédiction. Il pourvoira pour vos besoins chaque jour. Le contentement est une chose merveilleuse. Tu me donnes à manger aujourd'hui, Seigneur, je compte sur toi pour demain. Et Seigneur, pour moi, je me réjouis déjà parce que j'ai une place là-haut. Je vais vous préparer une place, a dit Jésus. La nature entière a été frappée par la malédiction à cause du péché. Et c'est ainsi que les animaux se déchirent les uns les autres. Il y a des animaux qu'on dit carnivores parce qu'ils ne vivent qu'en mangeant les autres. Eh oui, résultat du péché. Dieu n'a pas voulu cela. Non. Le péché trompe l'homme. Le péché l'aveugle. Quant à ses conséquences, dans le Proverbe 14, verset 12, il est dit: telle voie paraît droite devant un homme, mais la fin, c'est la voie de la mort. Si nous voulons simplement marcher selon notre compréhension de ce qui est bien, de ce que nous pensons être bien pour nous, nous allons nous tromper et le résultat sera la mort. Ce qui nous paraît bien n'est pas forcément bien à long terme. Faisons confiance au Seigneur, donnons-lui notre vie. Le péché porte en lui des conséquences négatives pour celui qui le pratique. Qui ira au ciel? Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Avez-vous votre nom dans le livre de vie? Baissons la tête. Seigneur, les temps sont courts et les temps sont mauvais. Nous ne sommes pas maîtres de notre destinée et de notre vie. Bien souvent, nous nous engageons dans des voies qui nous semblent bonnes, mais dont les conséquences mènent à la mort. Ouvre-nous les yeux, fais-nous comprendre ta volonté. Aide-nous à accepter, Seigneur, tes voies à toi. Peut-être que tout nous semble bon. D'abord, à court terme, mais à long terme, les conséquences sont négatives. Aide-nous à placer le Dieu puissant en premier dans notre vie. Seigneur, alors que nous allons prendre cette communion maintenant ensemble en ce jour, nous te demandons, Seigneur, de nous faire comprendre ces vérités. Car si nous pouvons un jour aller au ciel, aller dans la gloire, si un jour nous pouvons être en ta présence, c'est parce que tu as payé par ton sang, Seigneur, notre rançon. Tu as payé par ton sang et par ton sacrifice sur la croix de Golgotha. Tu as pris nos péchés sur toi et tu as subi la condamnation de Dieu à notre place. Ô grande était sa fureur contre le péché que tu as pris sur toi alors que toi tu étais sans péché. Tu as été séparé de ton Père et tu t'es crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il t'a abandonné et il t'a laissé seul à cause des péchés que tu portais du monde entier. Tant de choses que nous ne pouvons comprendre, Seigneur, mais Seigneur, nous croyons en toi. Et celui qui croit en toi a la vie éternelle, car tu n'es pas resté sur le bois de la croix, ni dans le tombeau, mais tu es sorti, vainqueur de la mort et du péché. Et tu as conquis l'ennemi pour nous, afin que nous soyons sauvés et que nous allions au ciel. Et c'est pour cela que nous prenons cette communion maintenant. Ô mon Dieu, cette communion qui est un symbole de ton corps brisé pour nous. Tu l'avais dit à tes disciples, prenez ceci, c'est mon corps qui est brisé pour vous. Ô Jésus, et ta parole nous dit que dans tes meurtrissures, il y a la guérison. Ces meurtrissures que tu as subies dans ton corps, tu guéris, Jésus, encore aujourd'hui. Et tu veux même guérir, à travers cette communion, ceux qui sont malades, ceux qui le prennent par la foi. Merci, Père. Prenant la coupe, tu as dit à tes disciples aussi, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Ils étaient là autour de la table, ils mangeaient, ils buvaient. Jésus a pris cette coupe contenant du vin et il leur a dit, buvez-en tous. Buvez-en tous, c'est le symbole du sang que je vais verser pour vous. Pour commencer, pour ouvrir une nouvelle alliance en mon sang, à travers mon sacrifice, parce que je veux que vous soyez avec moi au ciel, dans la gloire. Merci Seigneur, que chacun s'examine lui-même maintenant. Si vous êtes en communion avec le Seigneur, si vous marchez en nouveauté de vie, si vous avez laissé derrière vous le mensonge, laissé derrière vous les abominations et la souillure, prenez part à cette communion. Juge-toi toi-même, afin de ne pas être jugé. Ceux qui prennent cette communion, qu'ils se lèvent maintenant. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, alléluia, alléluia.
Qui donne la vie. Oh Jésus.
Yeah. terre, lui seul l'étourera. L'agneau des dieux assis sur le trône, il est souverain.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.